Une société est un regroupement structuré par des institutions, des lois et des règles. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Miroir de la Cité. La communauté sahélienne n'est pas constituée d'individus placés les uns à côté des autres comme des grains de sable d'un maillot, mais d'une organisation d'êtres humains interreliés comme des maillons d'une chaîne. Miroir de la Cité met un point d'orgue sur un idéal de communauté où chaque membre pourrait vivre dans le respect d'autrui et d'entretenir avec les autres citoyens un sentiment de civisme, d'altruisme et de solidarité. Miroir de la Cité de ce jour se penche sur la personne handicapée visuelle. Quelle perception faisons-nous de la personne handicapée visuelle? Quel type de protection devons-nous garantir aux personnes vivantes avec le handicap? Miroir de la Cité donne la parole au chef de centre de promotion et de formation des aveugles de Maroua, Monsieur Bello Garé. Console technique, nous avons Maxino, à la coordination David Bayan, et pour la présentation, je me nomme tout simplement Prosper Dionga. Pour démarrer cette édition, nous allons d'abord écouter la réaction de certains habitants de la ville de Maroua.
Bien sûr que si j'ai connu d'handicapé dans une des familles, plus précisément une de mes voisines, elle est une handicap, mais quoique les handicaps ne peuvent pas communiquer avec les autres, ne veut pas dire qu'ils les égarer ou bien leur inclure dans notre vie quotidienne. Il faut savoir communiquer avec eux aussi. Et pour cela, nous devons communiquer avec eux comme si c'était des personnes comme nous exactement. Ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs vœux. Merci beaucoup.
Jamais un handicapé dans ma famille, ça ne manque pas. Vous savez, dans une famille, tout le monde peut avoir un handicap. Moi, j'en ai, pour ne pas citer des oncles, des tantes, j'en ai. Et vu la situation, on ne peut pas les rejeter parce qu'on a un frère qui souffre d'un handicap. On doit vivre avec eux parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie, il ne faut pas qu'on les rejette.
Dans ma famille, je n'ai pas encore eu d'handicapé, pas pour le moment. Vous savez, l'handicap, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas de naître avec. Donc, quand quelqu'un est handicapé, la seule chose qu'on peut faire, c'est compatir et aussi être indulgent à son égard. Puisqu'on ne choisit jamais d'être ou bien de naître handicapé, on peut juste faire avec et se montrer gentil à l'endroit de cette personne-là.
Ben, pour moi, c'est vrai que dans ma famille, je n'ai pas connu une handicapée ou bien un handicapé. Mais je vois quand même dans les quartiers ou bien dans les autres villages, certains les méprisent, mais ce n'est pas une bonne chose. Ils sont aussi des personnes comme nous, qu'on doit les respecter dans la société. On ne doit pas les rejeter ou les mépriser parce qu'ils sont handicapés. Non, on doit les considérer comme des personnes bien portantes et avoir aussi une attention envers eux. Merci beaucoup.
Parler des handicapés, il faut le dire que certes, ils existent partout et dans tous les environnements. Chez nous-mêmes d'ailleurs à la maison, nous avons eu une handicapée déjà qui était par ailleurs la sœur à ma maman. Et on vivait avec elle au quotidien, on partageait les mêmes plats et tout ça. On n'était pas indifférents avec elle. Certes, il faut le dire, les personnes handicapées, de notre société en général, se doivent d'être encadrées. Et d'ailleurs, cela figure même déjà en préambule dans les dispositions constitutionnelles de notre charte de 1996. Ce sont des personnes qui méritent certains encadrements. Nous ne devons pas les marginaliser, nous devons les accepter et tout faire avec eux. Merci.
Bon, s'il fallait que je parle des personnes handicapées, dans ma famille, je n'ai pas eu à rencontrer ce cas. Mais quand même, autour de mes amis ou bien chez le voisinage, il y en a certes. C'est dû souvent à la naissance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont décidé. Et parfois aussi, c'est dû à un accident qui est survenu. Et en tant qu'humain, c'est vrai, c'est un peu touchant. Mais de temps en temps, quand on peut leur filer un coup de main, on le fait sans hésiter. Bien, il est aussi vrai qu'il y a certains qui se battent vraiment et qui oublient même leur handicap. Parce que si je ne mens pas, j'ai un collègue même qui est handicapé, mais qui travaille avec nous sans prendre en compte son handicap. Mais nous, on le félicite vraiment pour l'effort qu'il fournit. Et je pense que ce sont des personnes comme nous. C'est juste parce qu'ils ont perdu un membre de leur corps, peut-être le bras ou le pied ou je ne sais pas trop l'œil. Mais pour ma part, ce sont des personnes qui sont égales aux autres.
Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission en donnant la parole à quelques pensionnaires du Centre de promotion et de formation des aveugles de Maroua.
Je m'appelle Avalmaya Christine. Je suis élève au lycée bilingue de Maroua en classe de première A4 espagnol.
Quelle est la cause de ton mal?
Je suis déficiente visuelle. La cause de mon mal, c'est je suis née étant handicapée.
Depuis quand tu es ici au centre?
Je suis ici au centre depuis 2008.
Te sens-tu à l'aise ici?
Bon, je me sens bien à l'aise, je n'ai pas de problème. Je me lave, je mange quand même bien. Bon, pour le moment, ça va, je n'ai pas de problème.
Et si on voulait améliorer votre condition de vie ici, qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour améliorer notre vie, bon, il faut... On n'a pas bon le papier aussi, le problème de papier aussi nous dérange. Moi, bon, là où je suis, l'examen est déjà proche. Je voulais qu'on si on peut m'aider avec un téléphone pour que bon, je puisse traiter mes exercices avec.
Merci Christine.
Merci beaucoup Radio Hosseri.
Moi, c'est François Amba. Je suis un élève au lycée de Kakatare. Je suis en classe de première à 4 à Loma.
Depuis quand êtes-vous ici au centre?
Je suis ici au centre depuis 2019. Donc, ça fait pratiquement presque 4 ans.
Et comment tu te sens ici?
Bon, ici, moi, je me sens vraiment bien. Ici, je suis bien à l'aise parce que je me rends compte que l'entourage qui m'entoure, même, c'est, nous sommes tous du même cadre. Donc, on ne se dit pas des mots déplacés. Je suis vraiment à l'aise. Plus qu'à là-bas, là, la famille, je peux même dire.
Et quelle est la cause de ton mal?
La cause de mon mal à moi, c'est une maladie. Donc, depuis tout petit, j'ai cette maladie des yeux-là. Mais c'est quand j'ai grandi que ça a un peu aggravé. Donc, je suis un malvoyant, une personne déficiente visuelle.
Et vous avez quel âge à l'époque là?
14 ans, je crois. 14 ans parce que je faisais la 6e, c'est en 6e que ça s'est aggravé. Et puis la 5e, je l'ai fait oralement, la 4e jusqu'en 3e.
Que peut-on faire pour améliorer vos conditions de vie ici au centre?
Bon, bah ici déjà au centre, pour améliorer la condition de vie, au niveau des dortoirs d'abord, si vraiment il y a des personnes qui sont touchées, qui veulent nous aider, donc... même avec des moustiquaires, des draps, papa. Et sur le plan scolaire, il nous manque vraiment des papiers pour écrire parce que ces papiers sont vraiment coûteux. Et également, même les appareils didactiques pour l'écriture braille. Et même sur le plan nutritionnel, si on pouvait nous aider aussi avec les aliments pour manger, quoi. Donc, nous serons vraiment ravis.
Ok, merci pour votre disponibilité.
Grand merci à vous également, la radio Hosseri.
Je me nomme au nom de Cassis Pierre. Je suis élève au centre de promotion et de formation
des aveugles de Mahoua. Élève en classe de 3e au lycée bilingue de Mahoua.
Depuis quand êtes-vous ici au centre?
Ici au centre, je suis venu au centre ici en 2021.
Quelle est la cause de ton mal?
La cause de mon mal, je suis déficient visuel depuis 2009.
Quand vous avez quel âge?
J'avais 10 ans.
Et c'était quoi la cause de ton mal?
La cause de mon mal, même moi-même, je ne sais pas. Ça m'a venu seulement comme ça, comme une maladie.
Tu te sens comment ici, au centre?
Ici au centre, je me sens très très heureux. Je mange bien et je vis comme je suis chez mes parents. Je me lave et je mange très bien ici.
Que peut-on faire pour améliorer vos conditions de vie ici au centre?
Bon, pour améliorer notre condition de vie, nous demandons une aide aussi, comme le problème de nutrition. Vraiment, il y a un manque de nutrition quand même. Dans notre docteur, manque aussi de lits pour dormir, des moustiquaires. Comme nous sommes dans les périodes de froid, manque aussi de couverture.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Moi, c'est Tuto Irène, élève à l'Éniège bilingue de Mahoua en première année.
Okay. Vous êtes ici au centre depuis quand?
Je suis ici au centre depuis 2019, alors je suis à ma 4e année ici.
Et alors, quelle est la cause de ton mal?
La cause de mon mal, d'abord, je suis malvoyante. J'ai eu à perdre la vue à l'âge de 4 ans suite d'une maladie nommée la rougeole.
Et comment te sens-tu ici au centre?
Ici au centre, je me sens à l'aise parce que je suis en famille. Je suis entourée des personnes qui m'aiment, des personnes qui me comprennent. Et j'ai vraiment presque tout ce que je souhaite. Je mange, je me lave, en tout cas je suis au petit soin.
Comment voulez-vous qu'on améliore vos conditions de vie ici?
Ok, pour améliorer la condition de vie ici, on lance comme ça un grand appel à tous les hommes de bonne volonté vraiment qui pourront nous aider parce que d'abord s'ils pourront nous aider sur le cadre scolaire avec les matériels didactiques parce que souvent nous sommes en manque de tablettes, de poinçons ainsi que les papiers braille que nous utilisons pour écrire. Donc, s'ils peuvent vraiment nous aider côté scolaire, pour les fournitures scolaires, ça pourrait beaucoup nous aider. Dans nos dortoirs également, on a besoin d'aide. Pourquoi? Parce que nous sommes en manque de lits. Il y a certaines personnes qui sont à même le sol et d'autres sont peut-être à deux ou à trois sur le lit. Alors, s'ils peuvent également nous aider avec les lits, cela pourrait beaucoup nous arranger.
Ok, merci.
Merci beaucoup, Radio Océan.
Le handicap n'est pas une fatalité. La preuve en est plusieurs handicapés visuels du centre de promotion et de formation des aveugles de Mahoua se forment pour affronter les défis de la vie. Ne les stigmatisons pas, encourageons-les. Chers fidèles auditeurs auditrices, nous sommes de retour au studio de Radio Hosséré, à 105.5 qui réinvente l'avenir. Nous vous rappelons que l'invité du jour est le chef de centre de promotion et de formation des aveugles de Mahoua.
Monsieur Bello Garé, vous êtes le chef de centre social pour handicapés visuels. Merci de nous recevoir.
Merci Prosper Djonga pour l'opportunité que vous accordez au centre de promotion et de formation des aveugles de Mahoua pour diviser le coût de ce que nous faisons ici dans le centre.
Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Monsieur Bello, dites-nous, vous prenez en charge les malvoyants ou les personnes non-voyantes?
Je prends en charge les non et les malvoyants. Grosso modo, aujourd'hui, ce nom est légèrement changé parce que appelé autrefois les aveugles, on trouve que c'est quelque part très humain. Voilà pourquoi aujourd'hui on appelle beaucoup plus les déficients visuels. Parce que quand on dit déficient visuel, ça regroupe à la fois les non et malvoyants. Mais dans ce cas précis, les noms de non-voyants, malvoyants, ça existe toujours. Ce qui nous fait un peu mal, c'est ces noms d'aveugles. Ça représente un peu comme une injure. Voilà pourquoi, quand on nous appelle les aveugles, on se trouve un peu crispé dedans.
Merci pour cette précision. Pouvez-vous donner à nos auditeurs le profil de vos pensionnaires?
Effectivement, les profils de nos pensionnaires sont divers. Parce que ici, on encadre deux groupes de personnes handicapées, déficientes visuelles. Il y a d'abord les déficients visuels primaires et les déficients visuels secondaires. Les primaires, c'est les qui? Ce sont ceux-là qui n'ont jamais été à l'école. Leur première fois de mettre pied ici au CPFAM et on se met donc à les initier en braille. Et les secondaires, c'est ceux-là qui étaient déjà une fois à l'école et arrivés à l'école, ils ont été attaqués par la maladie des yeux et ne pouvant plus continuer dans ce lancer, ils se réfèrent à nous maintenant pour qu'on puisse les initier en braille afin de retourner dans leurs établissements respectifs pour continuer les études.
Quelle est la capacité d'accueil du centre dont vous êtes le responsable?
La capacité, Monsieur Prosper, c'était de 20 pensionnaires, mais aujourd'hui, on a largement dépassé le nombre qui était prévu au départ. Et vous conviendrez avec moi que au départ, on prenait juste 20 pensionnaires par an. Régulière, maintenant, on prend le minimum de 40 à 42 pensionnaires par an, ce qui fait que la demande est très forte aujourd'hui chez nous. Et là même, on n'arrive pas à accepter tout le monde.
À ce jour, le centre compte combien de filles et de garçons?
Bon, à ce jour, les filles au centre sont à 16 filles pour 26 garçons.
26 garçons,
oui.
16 filles.
Voilà.
Et comment faites-vous pour la prise en charge des pensionnaires de votre centre?
Pour la prise en charge de nos pensionnaires, on se débrouille comme ça. Je dois vous dire que le centre, jusqu'à l'heure où je vous parle là, on n'a pas encore un bailleur qui peut assurer le fonctionnement du centre. Sinon, on reçoit quand même les dons ponctuels des amis, des associations. C'est ça qui nous permet d'encadrer les élèves non-voyants au niveau du centre aujourd'hui.
Alors, Monsieur Bello Garé, intéressons-nous au fonctionnement du centre, d'accord?
Oui.
Est-ce que les enfants qui sont ici vont à l'école?
Oui, les enfants ici vont à l'école. J'ai relevé à l'entame de mon propos ici que les enfants, quand ils arrivent chez nous, on les initie à l'écriture braille. C'est une forme de l'alphabétisation qu'on fait à l'endroit de nos nouveaux pensionnaires ici au centre. Dès qu'ils apprennent déjà le A, le B en braille, maintenant il faut les orienter dans les écoles primaires, publiques ou privées. Par exemple, chez nous aujourd'hui, tous les enfants initiés en braille chez nous ne vont plus ailleurs parce que le CPFAM en son sein a ouvert également une école maternelle et primaire qui est même d'ailleurs reconnue officiellement par le ministre de l'Éducation des bases. dont nous disposons aujourd'hui, l'arrêté de création et d'ouverture de cette école primaire bilingue inclusive. Voilà pourquoi tous nos enfants vont là-bas aujourd'hui. Et après avoir fini le cycle primaire, ils passent pour le cycle secondaire. Voilà comment le fonctionnement du centre. Et d'ailleurs, à ce niveau même, nous suivons nos enfants, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire, voire même à la formation professionnelle.
Et qui s'occupe de leur scolarité?
La scolarité, on se débrouille comme ça. Il y a ceux qui sont suivis ou bien appuyés par les organisations ou par les associations ou par les religieuses, pourquoi pas. Mais très peu de pensionnaires payent la scolarité chez nous parce qu'ils ne disposent pas de ce moyen. Et il faut dire que l'enquête sociale qu'on réalise pour chaque enfant ici chez nous nous démontre toujours que la famille de ces pensionnaires, la plupart des familles de ces pensionnaires-là n'ont pas de ressources permettant d'encadrer l'enfant à l'école. Et comme vous le savez, l'école des élèves non-voyants coûte cher parce que les matériels est cher aussi.
Ok, parlant de leurs fournitures, sont-elles accessibles dans la région de l'extrême nord?
Tout de suite, non, je réponds en disant non. Ce n'est pas des matériels qu'on peut rencontrer sur le marché local ici à l'extrême nord. Il faut aller à Yaoundé, à Douala. Si jamais on ne trouve pas ici, il faut faire appel en Europe ou aux États-Unis pour que les fournitures nous viennent. Et là, le coût est vraiment honoré, le coût est trop cher. Donc nous avons les matériels que nous utilisons ici, c'est le papier braille, c'est la tablette, c'est le poinçon, c'est les machines braille, il y a la canne blanche qui est d'ailleurs même un outil de communication pour les déficients visuels. Il y a également les calculatrices parlantes et tout. Et c'est des matériels qu'on ne retrouve pas sur place ici à Marois.
Nous restons toujours dans le fonctionnement du centre. Comment sont répartis ces enfants dans les dortoirs?
Ok, les enfants sont répartis dans le dortoir en deux groupes. Il y a un groupe, il y a un dortoir pour les filles, un dortoir pour les garçons. Voilà comment c'est réparti. Et dans chaque dortoir, il y a ce qu'on appelle le délégué des étudiants, le délégué des pensionnaires. Et dans l'ensemble également, il y a un autre bureau qui est créé pour suivre les deux groupes. Donc, ça veut dire que au-dessus de tout ça, il y a encore un autre délégué avec son adjoint qui coordonne l'ensemble des deux dortoirs. Quand il y a un problème, le délégué du dortoir court vers le délégué coordonnateur pour lui poser le problème. Et c'est comme ça que leurs problèmes sont orientés au service social du CPFAM, parce qu'au sein du CPFAM, nous avons une personne qui s'occupe vraiment du domaine de la promotion des droits des personnes handicapées.
Si une personne connaît un déficient visuel, est-il possible de le conduire avec vous?
Bien entendu.
Comment?
Ils peuvent le conduire chez nous. Et là, il va falloir que la personne au moins fasse un petit geste pour vraiment inscrire cet enfant à l'école. Et soit qu'il s'apprête également à fournir le minimum de choses que nous demandons pour l'enfant ici au centre, à savoir le drap, le moustiquaire, le savon, le sou. Et la tablette, le poinçon pour l'enfant, ça c'est le minimum des choses qu'on demande aux parents. Et là, il y a la scolarité du centre qui s'élève un peu plus de 85 000 francs par an. Et on demande également que les parents contribuent à hauteur d'un sac de mil ou de maïs avec 15 kg d'haricots par an.
Et pour des familles qui n'ont pas de moyens, ils font comment?
Bon, Je dois dire qu'il n'y a pas que les familles n'ont pas de moyens. Tous les enfants que nous avons ici, 93% des parents ne contribuent pas, mais on les encadre toujours. Mais malgré les sensibilisations et tout, les parents ne comprennent pas. Vous-même, vous savez que l'éducation des déficients visuels n'est pas facile. Même quand l'enfant est dans sa famille n'a jamais considéré cet enfant-là au même pied d'égalité que les autres enfants. S'il a envoyé les enfants à l'école, on envoie d'abord les enfants valides, on laisse les handicapés à la maison. Ça, c'est connu de tous ici dans la région de l'extrême nord. Parce que les parents supposent que avec ça, cet enfant-là va faire quoi avec l'éducation qu'il va recevoir. Alors que les gens oublient que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, que ce soit un enfant handicapé tout court ou un enfant valide, ils peuvent réussir au même titre. Donc, il n'y a pas à dire que c'est parce que l'autre s'y est handicapé qu'il ne va rien nous fournir. Non, non, ce n'est plus le moment.
Ok, Monsieur Bello, depuis quand existe le centre?
Ok, le centre est créé le 17 septembre 1999. Et a ouvert ses portes le 15 octobre 2000. De 2000 à 2022, nous croyons que ça existe il y a de cela 22 ans aujourd'hui.
Et l'initiative de la création de ce centre de promotion et de formation des aveugles de Marois est de qui?
L'initiative est de celui qui vous parle. Dans l'initiative est de M. Bello Garé. Et parce qu'on a fait un constat pour voir par rapport à l'encadrement des déficients visuels dans la région de l'extrême nord. Je vais vous dire que moi j'ai été formé au Rehabilitation Institute for the Blind Boya de 1986 à 1988 et il a fallu qu'on fasse des enquêtes pour savoir effectivement le centre de Boyassi, les aveugles de l'extrême nord arrivent là-bas. Il faut comprendre que depuis cette école est ouverte depuis 1966. Et à 1998, où je suis reparti pour mener ces enquêtes-là, j'ai trouvé qu'il y avait seulement 6 aveugles de la région de l'extrême nord qui sont passés dans le centre. Mais là, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire ici pour la région de l'extrême nord. Voilà pourquoi je me suis mis donc à penser à créer dans cette école. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'école là a vraiment l'impact, non seulement dans la région de l'extrême nord, dans toutes les trois régions, dans toutes les trois régions du Grand Nord. Et il y a une partie du Tchad aussi qui nous envoie leurs pensionnaires ici.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge de ces jeunes?
Oui, les difficultés sont multiples et diverses. Parce que les difficultés, d'abord pour les enfants, les parents n'arrivent pas à prendre charge de leurs enfants. Ça, c'est une grande difficulté. Parce que quand ils arrivent ici au centre, ils deviennent les propriétaires du centre. Donc voilà une grande difficulté. À ce niveau-là, nous disons aux parents que non, c'est leur enfant. Il faut qu'ils pensent à prendre charge de leurs enfants quand ils sont ici à l'école, au même titre que les enfants valides qui sont à la maison. Ça, c'est une des difficultés. Autre difficulté ici, comme vous avez dit, les pensionnaires sont nourris sur place ici au centre. Il faut avoir la nutrition pour les enfants. Et il faut avoir également les déplacements pour aller à l'école parce qu'ils ne fréquentent pas ici au centre. Ils sortent pour aller soit à Frolina, soit au lycée Kakatari, soit au lycée Marois bilingue, soit à l'Eniège bilingue de Marois. Donc, si ces enfants n'ont pas vraiment la possibilité de se déplacer ou le centre n'a pas le moyen pour faire déplacer les enfants, vraiment, c'est une difficulté. C'est une difficulté même majeure. Autre chose, le centre, comme je l'ai relevé tantôt, n'ayant pas vraiment le bailleur pour assurer le fonctionnement, on rencontre beaucoup de difficultés dans le domaine de la prise en charge des personnels, la prise en charge des factures au niveau de l'école, du centre même. Il faut les fournitures de bureaux. En fait, on a beaucoup de difficultés. Je dois vous dire que le centre aujourd'hui a recruté plus de 30 personnes qui travaillent ici au centre de promotion, de formation des aveugles. Et il faut les rémunérer, ne serait-ce que le frais de savon pour les permettre de laver leurs habits et avoir l'argent de taxi pour les dire rendre service à nos pensionnaires ici. C'est vrai, ce que nous faisons au CP Femmes, c'est le sacrifice. Mais on ne peut pas aussi rester soi-disant que c'est le sacrifice, parce que le sacrifice-là, il faut que ça prouve aussi sa valeur. Donc voilà pourquoi les difficultés, ça rentre aussi dans les difficultés financières que nous avons, parce qu'on n'a pas assez de ressources financières disponibles nous permettant de bien fonctionner.
Et s'il faut vous venir en aide, c'est de quelle manière?
Bon, s'il faut que les gens nous viennent en aide, comme les autres le font déjà, c'est la même chose. Les gens cherchent notre porte, ils viennent, ils nous demandent quels sont les besoins que nous avons. On leur présente nos besoins sur tous les plans. Ils voient ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Ils nous disent que, bon, par rapport aux différents besoins que vous nous avez présentés, voilà ce que nous, on sera capable de faire. Nous, on peut donner les habits aux enfants. Nous, on peut donner la nourriture aux enfants. Nous, on peut donner les fournitures, les matériels didactiques spécialisés aux enfants. Nous, on peut prendre charge salariale pour le personnel. Voilà un peu s'il y a à nous venir en aide des choses que nous avons besoin pour permettre effectivement notre fonctionnement. Et comme je vous ai dit, nous avons une école bilingue inclusive. Inclusive, ça veut dire que dans cette école-là, on accepte à la fois les enfants voyants et les enfants non-voyants, et les enfants handicapés moteurs, les handicapés auditifs. Tout ça, c'est pour éviter les préjugés entre les enfants dès leur bas âge. Voilà pourquoi cette école est ouverte aujourd'hui. Cette école est en train de faire son chemin et l'impact de cette école est visible parce que l'école est ouverte à Frolina dans l'arrondissement de Marois 2e et non loin de la barrière douanière sur la route de Mora. Voilà, là où on peut retrouver l'école. Ici, les gens nous viennent en aide à travers le numéro WhatsApp, le 699-5302-61, soit par mail sur l'adresse bellogaré@yahoo.fr. Ça, c'est donc la proposition de ces dons peuvent nous venir sur ces deux adresses-là. Et puis, nous, en retour, on va appeler et indiquer là où le centre est situé. C'est non loin de la préfecture du Diamaré, à côté de l'Union des soutiens BSA3 de Marois ici, non loin de l'établissement Bois-le-Vin pour ceux qui le savent.
Merci, c'était Bello Garé, chef de centre de promotion et de formation des aveugles de Marois.
Merci Monsieur Prosper Djonga. Comme je l'ai dit en haut, pour l'opportunité que vous accordez au Centre de promotion et de formation des aveugles de Marois. Maintenant, nous comptons déjà parmi les auditeurs de la radio au Syrie, qui ça nous va tout droit au cœur. Et nous prions que cette radio vraiment évolue bien, qu'il commence à émettre comme tous les autres radios. Pour nous permettre de les suivre également. Merci pour tout ce que vous faites pour les personnes handicapées.
Ch- Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Hosering, nous sommes arrivés à la fin de cette édition qui portait sur la vie au centre de promotion et de formation des aveugles de Maroua. Grâce aux différents intervenants, nous avons mis en lumière la question du handicap afin de déconstruire toutes les fausses considérations au sujet de la personne handicapée. Le handicap n'est pas une fatalité. La preuve en est plusieurs handicapés visuels du centre de promotion et de formation des aveugles de Maroua se forment pour affronter les défis de la vie. Ne les stigmatisons pas, encourageons-les. Ce programme a été réalisé avec la contribution du chef de centre de promotion et de formation des aveugles de Maroua, M. Bello Garé. De l'autre côté de la mise en onde, nous avons Maxino. La coordination est assurée par David Bayang. Et pour la présentation de ce programme, je suis Prosper Djonga. Merci de rester scotché au programme de Radio Hosseri. À bientôt pour une nouvelle édition. Bye bye.